RFI, les piles midi, temps universel, 13h à Paris et à Valence. Bonjour.
RFI midi.
Charlotte Hydrac.
Avec à la une, le roi Felipe VI sur le terrain en Espagne, en visite dans les zones sinistrées par les inondations catastrophiques et où l'on scrute le ciel, la météo, de nouvelles pluies sont redoutées. Jour de vote en Moldavie, second tour de la présidentielle entre la sortante Maia Sandu, pro-européenne, et Alexander Stoyanoglou, soutenu par les pro-russes, un scrutin très incertain. Là aussi, ce sera elle ou lui, Kamala Harris ou Donald Trump, climat électrique avant la présidentielle de mardi aux États-Unis. Certains ont déjà voté par anticipation. On sera à Phoenix, en Arizona. Et puis, ça a été une semaine de rêve pour Hugo Humbert au tournoi de tennis de Paris-Bercy. Mais c'est un gros morceau qui l'attend tout à l'heure en finale. Le Français sera opposé à Alexander Zverev, numéro 3 mondial. Oui, une nouvelle alerte orange pour de fortes pluies dans la région de Valence, dans le sud-est de l'Espagne, déjà dévastée par des inondations d'une violence inouïe qui ont fait au moins 213 morts cette semaine. Je vous le disais, le roi Felipe VI a entamé là ce dimanche une visite de terrain dans les zones sinistrées avec la reine Letizia, avec le premier ministre aussi, Pedro Sanchez, notamment à Paiporta, c'est près de Valence, où les opérations de déblaiement se poursuivent pour dégager les routes, pour nettoyer des habitations pleines de boue ou encore pour vider des garages souterrains. Reportage Pauline Glaise.
L'eau que cette habitante pousse avec sa raclette provient du garage souterrain de son immeuble.
On le vide pour le nettoyer et voir dans les caves. Tout sera jeté, mais bon. Jusqu'à présent, on n'avait pas de machine pour nous aider. On a commencé ce matin en vélo avec une pompe.
L'entrée du garage souterrain de Vicente Cascales a encore des aires de mare stagnante, barrées par deux voitures à la verticale et partiellement immergées. Un garage où il a failli perdre la vie.
J'ai réussi à sortir de la voiture. Il y a une sorte de tsunami qui m'a entraîné. Ma femme a dû s'agripper à la portière. On a été pris dans un tourbillon. J'ai sauté sur le capot pour essayer de la tenir. Grâce à un voisin, on a réussi à avoir la vie sauve.
Mais tous n'ont peut-être pas eu cette chance.
On suspecte que des gens soient restés dans notre garage. C'est pour ça qu'il y a une urgence à pomper l'eau.
Un camion de pompiers s'est garé à proximité de l'entrée nettoyée par Vicente Cascales et ses voisins.
On l'a laissé comme ça, pour que les pompes puissent venir vite et vidanger l'eau.
En prenant des précautions, cette eau stagnante, potentiellement en contact avec des cadavres, présente un risque pour la santé. Pauline Glaise, Paiporta, RFI.
Une nouvelle attaque de drones russes sur Kiev la nuit dernière, la capitale ukrainienne. Pas de blessés selon les autorités militaires, mais des bâtiments, des routes, plusieurs lignes électriques ont été endommagées. De son côté, la Russie revendique la prise d'un village à quelques dizaines de kilomètres au sud de Pokrovsk, un nœud logistique et stratégique pour les forces ukrainiennes. L'ombre de Moscou qui plane sur le second tour de la présidentielle en Moldavie s'étend. En ce moment, les électeurs sont en train de voter. La présidente sortante pro-européenne, Maia Sandu, fait face à Alexander Stoyanoglou, ancien procureur, et favorable, lui, à un rapprochement avec Moscou. Le scrutin s'annonce serré. À Chisinau, reportage de notre envoyé spécial, Julien Chavanne.
Yulia est venue voter à la première heure. Le jour est important pour cette mère de famille.
Nous voulons un pays prospère. Nous voulons la paix, la tranquillité. Nous avons voté pour l'avenir de nos enfants, pour avoir une vie meilleure et sûre. Nous votons pour nos enfants afin qu'ils aient la meilleure vie possible.
Elle vient de cocher la case Maia Sandu sur son bulletin de vote. La présidente sortante a multiplié les appels contre les fraudes. Constantin Josanne est le président de ce bureau de vote où les deux candidats sont arrivés au coude à coude au premier tour.
Nous avons des observateurs nationaux et internationaux, des représentants des candidats aux élections et, bien sûr, nous sommes les membres de la section électorale chargés de rendre le processus de vote transparent et équitable. Nous avons assuré une sécurité maximale au premier tour et, bien entendu, nous ferons de même au second.
Des caméras sont installées au-dessus des urnes et dans la rue, la police patrouille avec un message diffusé par haut-parleur. Ne vous faites pas payer pour voter, c'est illégal. On connaîtra les résultats dans la soirée, mais personne d'ici là ne se risque au moindre pronostic. Julien Chavanne, Kissinao, RFI.
Et les bureaux doivent fermer à 19h, temps universel. Un nouvel ordre d'évacuation diffusé par l'armée israélienne ce dimanche dans la région de Baalbek, dans l'est du Liban, pour avertir de nouvelles frappes contre des installations du Hezbollah. De nombreux drapeaux du mouvement chiite libanais ont été brandis aujourd'hui à Téhéran, en Iran, où des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour célébrer l'anniversaire de la prise d'otage de l'ambassade américaine. C'était en 1979. Cela avait entraîné la rupture des relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis. Elles n'ont jamais été rétablies depuis. Les États-Unis et le sprint final avant la présidentielle de mardi, mais de nombreux Américains en fait ont déjà voté par anticipation, alors soit par courrier, soit dans des urnes sécurisées. C'est un système qui s'est imposé dans la majorité des États, comme en Arizona. Le vote par anticipation là-bas a longtemps été critiqué par le camp de Donald Trump, mais pas cette année. Reportage à Phoenix, Abla Junaidi.
C'est tellement plus simple. Il n'y a pas la foule, pas de gens énervés. Ça peut être angoissant.
Dans ce centre de vote de Mesa, en banlieue de Phoenix, pas de file. Glisser l'enveloppe prend 5 minutes et, comme le dit Rebecca, pas de militants pro-Trump pour perturber les opérations, comme ce fut le cas pour le décompte des voix en 2020. Dans l'enveloppe, 4 pages pour choisir un président ou une présidente, mais aussi les élus locaux, ceux du Congrès, et répondre à une dizaine de référendums, notamment sur l'immigration et l'inscription de l'avortement dans la constitution de l'État.
Je suis pro-avortement à 100%. Pour la frontière, il y a eu un excellent projet de loi bipartisan que Trump a anéanti. Il faut travailler sur la frontière, mais expulser des millions de personnes sur la base de leur couleur de peau, ce n'est pas possible.
Longtemps discrédité par Donald Trump, qui l'accusait de favoriser la fraude, le vote anticipé est à nouveau en odeur de sainteté dans le camp de l'ancien président, ce qui permet à Brin de venir glisser son bulletin pour Trump.
Pour une raison principale, l'économie. Et puis, je l'aime beaucoup parce qu'il a une capacité, face aux autres dirigeants, à faire ce qu'il faut. J'aime ça.
Toutes ces interviews ont été menées à plus de 20 mètres du bureau, c'est la loi en Arizona, une distance qui permet de préserver la sérénité du vote, nous souffle un employé. Abla Junaidi, Phoenix, RFI.
Des employés de bureaux de vote sous pression hein, face à des risques de tension. On y revient juste après le journal avec notre invitée, la chercheuse Elisabeth Shepard-Selam. Les écoles maternelles et primaires fermées à partir de demain lundi à Lahore, au Pakistan, et ça va durer toute la semaine. Conséquence de la pollution record enregistrée dans la deuxième ville du pays, plongée dans une sorte de brouillard jaunâtre, le smog. La fin en queue de poisson de la COP16 sur la biodiversité de Cali en Colombie hier, avec la suspension des discussions. Pas d'accord sur les points cruciaux, notamment sur un fonds dédié à la protection de la nature. Pourtant, il y a 2 ans, lors de la dernière COP biodiversité à Montréal, 196 pays avaient adopté un accord très ambitieux avec 23 objectifs au total d'ici 2030. Et donc là, c'est la douche froide pour Josh Cabrangs. Il est porte-parole de l'ONG WWF en Autriche. Il était présent à Cali. Il se dit sidéré.
Nous nous sommes mis d'accord il y a 2 ans sur des objectifs mondiaux à atteindre pour lutter contre l'extinction des espèces. Pour savoir si nous atteignons ces objectifs ou pas, nous devions adopter à Cali le mécanisme nécessaire pour mesurer nos avancées, mais rien n'a été décidé. Cela signifie que nous ne pouvons même pas vérifier si nous sommes sur la bonne voie ou non. Et puis, la protection de la biodiversité coûte de l'argent. De nombreux États en développement ont besoin du soutien financier des pays industrialisés, mais sur ça non plus, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. On repart donc de cette COP les mains vides. Tout au long de cette conférence, les pays industrialisés, dont l'Union européenne, ont montré qu'ils ne sont manifestement pas prêts à mettre en œuvre les objectifs sur lesquels on s'est tous mis d'accord. D'ailleurs, tous les États sont invités à prendre la crise de la biodiversité au sérieux. Vous imaginez ? Une partie des délégations sont parties avant la fin des négociations. Ça en dit long. Et au vu de la crise à laquelle nous sommes confrontés, tout cela est tout simplement sidérant.
Voilà la déception de Josh Cabrangs de l'ONG WWF, joint par Stéphanie Schuller. Et puis le duel final au tournoi de tennis de Paris-Bercy. Les sports, c'est tout de suite avec Laurence Valmet. Oui, le public de l'Arena Paris-Bercy attend avec impatience la finale du Masters 1000 entre le français Hugo Humbert et l'allemand Alexandre Zverev.
Et rendez-vous dans un peu moins de 2 heures à 14h TU. Cela faisait un petit moment qu'un français n'avait pas atteint ce stade de la compétition. Il faut remonter à 2011. Joe Wilfried Tsonga a été battu par le Suisse Roger Federer. Aujourd'hui, donc, Hugo Humbert va tenter de remporter ce tournoi qui se joue pour la dernière fois à Bercy. Avant de déménager à l'Arena Paris La Défense, le Messin de 26 ans, en grande forme, dispute la première finale de Masters 1000 de sa carrière. Mais attention, il a en face de lui un adversaire solide, le numéro 3 mondial, l'allemand Alexander Zverev. Et pour l'ancien vainqueur du tournoi en 91, Guy Forget, il a toutes ses chances, notre français.
Honnêtement, il joue très très bien, il a tous les coups dans la raquette, on sent qu'il est en confiance. Même quand il commet une ou deux erreurs, il continue à être agressif. Et puis sur cette surface finalement rapide, son jeu assez plat, avec des prises de balles précoces, il sert très bien. Ben, il laisse pas le temps à ses adversaires de s'organiser. Et on l'a vu, les problèmes qu'il a posés à Alcaraz, hein, au meilleur joueur du monde. Donc voilà, en finale, contre Zverev, une nouvelle fois, je crois qu'il a vraiment une belle carte à jouer parce que sur le papier, je vois pas pourquoi cette finale n'est pas à sa portée. Donc il aura 15 000 personnes derrière lui et on sera présent.
Guy Forget au micro d'Éric Mamrut. En 4 victoires, Hugo Humbert deviendrait le 4e vainqueur français de ce tournoi de Bercy. Après donc Guy Forget, Sébastien Groschamp, Joe Wilfried Tsonga en 2008, qui était le dernier tricolore à l'avoir emporté.
Et nous aussi, on sera présent. Match à suivre tout à l'heure donc sur RF. Il y a du foot également avec les 4 dernières rencontres de la 10e journée de Ligue 1.
Et pas de grosse affiche ce dimanche à 14h TU. Toulouse accueille Reims, suivi à 16h TU d'Auxerre-Rennes et du match entre mal classés Le Havre avant-dernier et Montpellier dernier. En clôture de cette journée, l'OM se déplace à Nantes. On attend une réaction des Marseillais après la claque reçue lors du Classico face à Paris. Le match sera à suivre à 19h45 TU.
En Angleterre, par contre, là, il y a un choc à suivre. Aujourd'hui, Chelsea se déplace à Manchester United en clôture de la 10e journée de Premier League.
11 ans que les Blues n'ont plus gagné sur le terrain de United. C'est long et ils ont là une nouvelle occasion de mettre fin à cette longue série. Pour cela, le coach Enzo Maresca va pouvoir compter sur Cole Palmer. L'anglais a marqué 4 fois contre les Mancuniens l'an passé et l'entraîneur de Chelsea confirme qu'il compte sur lui.
Il va jouer. Cole est toujours très bon, je l'ai dit au début de la saison. Si nous lui demandons 20 buts et 20 passes décisives, nous avons sans doute tort, car il ne faut pas lui mettre toute la pression sur les épaules. Il faut qu'il prenne du plaisir et c'est comme ça qu'il va marquer et aider l'équipe. Nous n'avons pas gagné à Old Trafford depuis 2013, espérons que ce soit le bon moment. Cela montre à quel point jouer dans ce stade est difficile, pas seulement pour nous, mais pour toutes les équipes. Nous allons faire tout notre possible pour remporter ce match.
Et Manchester United, Chelsea, c'est à suivre à partir de 16h30 TU.
Merci à vous Laurence Valmé. Pour l'heure, 7h13 à Washington.
RFI.
Et retour aux États-Unis. Retour donc aux États-Unis pour cette fin de campagne avant le vote de mardi dans une ambiance très crispée. Bonjour Elisabeth Shepard-Selam.
Bonjour.
Maîtresse de conférences en civilisation américaine et relations internationales à l'Université de Tours. Vous êtes spécialiste des politiques aussi de défense et de sécurité. Merci d'être en direct avec nous. D'abord, votre point de vue, si vous voulez bien, sur ce sondage qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis, sondage d'un institut réputé, publié hier soir, qui nous indique que dans l'État de l'Iowa, un fief républicain traditionnellement, eh bien ce sondage donne 3 points d'avance à la démocrate Kamala Harris. Comment est-ce que vous l'analyser?
Alors tout d'abord, ce sondage, le sondage Seltzer de Anne Seltzer, est un sondage assez connu pour sa fiabilité surtout. Mm-hmm. Et ça, c'est assez important dans le monde des sondages où les dernières élections, on a vu beaucoup d'erreurs aux États-Unis. Elle avait en 2016 et 2020 pronostiqué Trump en Iowa avec... Je pense que la dernière fois, elle avait pronostiqué avec plus 7 points. Il a gagné avec plus 8 ou 8,2. Donc, assez précis, ce qui est toujours assez important. Et pourquoi ça a fait surtout beaucoup de bruit alors qu'il y a énormément de sondages. Le fait qu'elle est assez fiable. Soit ça veut dire que toutes les autres ont tort, soit ça veut dire que pour une fois, elle a fait une erreur. Mais le pourquoi du comment est aussi très important. Qu'est-ce qui aurait pu faire en Iowa que ça a pu... sans contre toute attente, tourné vers les démocrates, bah, on pense que c'est plutôt lié à la vote des femmes. Iowa est un des États qui a mis en place une interdiction absolue sur l'avortement et on parle de beaucoup de femmes, notamment des femmes d'un certain âge, plus que les jeunes, qui sont en rogne et qui seront susceptibles de bouger pour aller voter pour Kamala Harris pour défendre leurs droits.
Alors, on le disait, l'ambiance est très crispée avant ce vote de mardi, voire anxiogène. Il y a toute une série de mesures qui ont été prises pour sécuriser le vote et faire face à d'éventuelles violences. On parle de détecteurs de métaux aux entrées de bureaux de vote, de drones aériens, des hommes armés. On n'avait jamais vu ça.
Non, je pense même, enfin, moi je pense surtout en Arizona, je crois que c'est le comté de Maricopa, où oui. Il y a des snipers, donc
des tireurs d'élite.
On est vraiment dans une augmentation de la violence politique. J'en ai écrit récemment sur le sujet parce que c'est quelque chose qui est présent historiquement aux États-Unis, c'est pas la question, mais le niveau, on n'a jamais vu dans une élection. J'ai quand même assisté à un certain nombre d'élections sur le terrain et j'ai jamais vu autant, on pouvait avoir des bagarres, des choses comme ça, mais autant de violence et autant d'inquiétude depuis le 6 janvier 2020,
on n'a jamais vu ça. Ouais. Les événements du Capitole à Washington. Et on a entendu plusieurs reportages de nos correspondants, notamment sur des responsables électoraux qui sont sous pression, des responsables qui expliquent qu'ils ont eu des formations pour gérer justement des électeurs violents. On a aussi des démissions chez les assesseurs. Ça vous surprend? Ça vous inquiète?
Ça m'inquiète, ça ne me surprend pas parce que c'est dans cette lignée de ce que je vous disais, c'est-à-dire ces inquiétudes sur la violence. Vous imaginez que les assesseurs n'ont pas envie de mettre leur vie en jeu pour une élection, et je les comprends très bien pour avoir été assesseur moi-même. Donc c'est très inquiétant, cette augmentation de la violence, parce que là on ne parle pas simplement de Washington, de l'attaque du Capitole, on parle de 50 États ou 50 différents États où ça peut être possible au niveau local, au niveau du capital de l'État, mais aussi dans toutes les bureaux de vote. On parle d'énormément de risques pour les gens qui essaient simplement de faire respecter la démocratie. Donc c'est très inquiétant.
Il y a même eu des distributions d'antipoison, je crois, pour des responsables du bureau de vote après l'envoi par la poste d'enveloppes qui contenaient des opioïdes.
Ouais, on peut imaginer, enfin, c'est toujours quelque chose aux États-Unis, notamment depuis le 11 septembre, cette inquiétude d'envoi d'opioïdes ou d'autres substances par la poste. Donc je pense que ça augmente, comme vous disiez, cette côté anxiogène de l'élection.
Vous évoquiez Washington, la ville secouée par les événements du Capitole, l'assaut des partisans de Donald Trump. La capitale, la présence policière a été renforcée dans la capitale. Il y a des planches sur les vitrines des magasins. Est-ce que ce spectre d'un nouveau Capitole plane toujours, selon vous? Ce genre d'événement pourrait se reproduire?
Je pense que ça serait beaucoup plus difficile à Washington même. Après, Washington a toujours été malheureusement le cible de violence, même dans les années 60, on a brûlé une partie de la ville. Moi, même quand j'étais enfant, je suis de Washington, on voyait encore les taches physiques sur des bâtiments. Mais ce qui a changé cette fois-ci, pourquoi à Washington, je pense qu'on peut être un peu moins inquiet, c'est parce que tout d'abord, le gouvernement est différent. C'est un gouvernement Biden. Ils feront tout ce qui est nécessaire pour l'éviter, y compris ce que vous disiez toutes les barrières, toutes les forces de l'ordre qui sont mobilisées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas tenter, mais ça veut dire que la dernière fois, ils n'avaient pas mobilisé les forces de l'ordre assez, notamment la garde nationale. Là, ça sera mobilisé d'emblée pour faire face. Donc je pense que c'est pour ça que je pense que l'inquiétude peut être plus sur les bureaux de vote individuels, sur les États, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Là, je pense que l'administration Biden et le gouvernement de Washington a compris qu'il faut faire face en amont et pas être dans la réaction. Et ça, c'est plutôt bonne nouvelle.
Merci beaucoup à vous, Elisabeth Shepard-Selam. Je précise que sur le réseau X, vous écrivez « J'ai hâte d'en finir avec cette élection ».
Oui, je dois avouer, ouais, mon intérêt principal, c'est pour le contre-terrorisme américain, mais je travaille bien sûr, du coup, sur le gouvernement américain. Et le côté anxiogène, c'est pour nous aussi. Enfin, nous, les observateurs, les analystes, je suis aussi quand même électrice américaine, donc ça commence à être très anxiogène pour nous tous.
Merci à vous, en tout cas, Elisabeth Shepard-Selam, maîtresse de conférences en civilisation américaine et relations internationales à l'Université de Tours. Très bonne journée à vous. Cette campagne américaine marquée notamment par le thème de l'immigration, c'est une préoccupation majeure des électeurs. Alors que l'an dernier, 2,5 millions de personnes ont été arrêtées en franchissant la frontière depuis le Mexique voisin. Les démocrates comme les républicains ont promis de durcir encore les conditions d'entrée aux États-Unis. Et au Mexique, on suit ce débat avec attention, avec inquiétude aussi. Puisque sous pression américaine, le Mexique joue de plus en plus un rôle de seconde frontière, entre guillemets, en empêchant les migrants de remonter vers le nord. Et la capitale, Mexico, est devenue un lieu d'attente pour certains migrants dans des conditions difficiles. Reportage, Gwendolina Duval.
En plein cœur de Mexico, dans le quartier populaire de la Merced, un camp informel fait de structures métalliques et de bâches colorées fait face à l'église de la Soledad. Il accueille plusieurs centaines de personnes migrantes. Jean s'apprête à s'y installer. Cet Angolais arrive tout juste de Tapachula, à la frontière sud du Mexique, où il a passé 8 mois.
Un peu de difficultés pour manger parce qu'il n'y a pas de travail. C'est pour ça que je suis venu ici à la capitale.
Vous avez déjà essayé d'aller à la frontière ?
Essayé d'aller à la frontière. On a trouvé l'immigration qui retourne les gens à plusieurs reprises. À Tabasco, encore tout le chemin à faire. On n'a plus d'argent.
C'est Ursule Kimino à côté qui répond. Cette Congolaise de Brazzaville est dans ce camp depuis 3 mois. Elle ne veut plus bouger, épuisée par les obstacles qui freinent la progression des migrants vers le nord.
C'est dangereux, oui, avec l'immigration. Et pour aller dans les bus aussi, il y a la mafia qui kidnappe les gens, qui demande la ration aux familles. Or, si l'immigration pouvait nous faciliter les choses, que si on pouvait prendre les bus sans problème, on devrait peut-être être en sécurité.
La jeune femme attend de décrocher un rendez-vous pour faire une demande d'asile. Tout comme Dario, un Vénézuélien de 34 ans qui a été séparé de sa femme et de sa fille et espère les retrouver un jour à Chicago.
Ils m'ont expulsé et elles ont pu rester. Moi, j'ai passé 17 jours dans un centre de détention, puis ils m'ont renvoyé à Tapachula.
À Mexico, il fait des petits boulots et attend, suspendu à son téléphone, à l'application de la migration américaine CBP1 qui attribue des rendez-vous au hasard.
Ça fait 7 mois que j'attends une audience. Il faut se connecter tous les jours. On ne sait rien. C'est le système qui décide.
Ils commencent à avoir des crises d'anxiété, de stress.
Carla Medina, responsable des opérations chez MSF à Mexico.
Certains commencent à faire des crises de dépression à cause de cette situation d'incertitude, l'inquiétude qu'ils ressentent en attendant de savoir qui prendra le pouvoir aux États-Unis, que va-t-il se passer pour chacun dans leur parcours migratoire.
Dans la capitale, le nombre d'espaces dans les refuges manque. Les récentes politiques migratoires américaines font que les personnes attendent beaucoup plus longtemps. Dans un autre camp, au nord de la ville, Juan Manuel anime chaque semaine avec un groupe de bénévoles des jeux avec des enfants des familles en migration.
Le principal problème que je vois dans les camps de rue, c'est la sécurité. Parce que l'État est absent, parce qu'il se décharge de toutes les responsabilités qu'il a envers eux.
Violence, discrimination, extorsion, selon MSF, les agressions envers les migrants dans les rues de la capitale se sont multipliées ces derniers mois. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
La présidentielle américaine Kamala Harris et Donald Trump, deux visions des États-Unis et de sa place dans le monde aussi. Depuis la fin de la guerre froide, la présence militaire américaine en Europe est assez stable. Les forces armées comptent environ 60 000 personnels en Europe au sein de l'OTAN. Mais alors que la Chine est devenue l'adversaire numéro 1 de Washington, une victoire de Donald Trump pourrait-elle changer la donne ? Ligne de défense avec Franck Alexandre.
La menace d'une nouvelle administration américaine plane sur l'Europe. Elle a même été verbalisée le 10 février dernier. Dans l'un de ses meetings, le candidat républicain Donald Trump a assuré ne plus garantir la protection de tous les pays membres de l'OTAN face à la Russie.
L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « Si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, nous protégerez-vous. Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai même à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer.
S'il est élu, souligne l'expert en relations internationales Cyril Brett, Donald Trump pourrait bien chercher à diviser les Européens.
Il a déjà annoncé plusieurs inflexions dans sa perception et son action du lien transatlantique. Il rappellera la nécessité de faire payer aux Européens leur propre sécurité. Il voudra également conserver ce qui est l'essentiel pour Donald Trump de la présence américaine en Europe, le parapluie nucléaire, les vecteurs et les chaînes de commandement, mais de déléguer aux Européens de plus en plus la question des armements terrestres et la question des équipements de détection.
Si la menace chinoise devient prioritaire, les États-Unis pourraient-ils conserver un important contingent en Europe? La question des ressources et des savoir-faire militaires se posera indubitablement. En revanche, un départ américain ne se fera pas d'un claquement de doigts, même avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Cyril Brett.
Il y aura des résistances de la part de l'appareil militaire américain lui-même. Tous ne sont pas convaincus de cette lecture des relations internationales où seule la Chine compte. Il y a des Cold Warriors autour de Donald Trump. Il y a des Cold Warriors qui se feront entendre au Sénat et au Pentagone. Donc ça ne se fera que graduellement.
De son côté, si la candidate démocrate Kamala Harris porte une ambition pour le lien transatlantique, en cas de victoire, elle devra également faire face à la montée en puissance de la Chine. Et paradoxalement, cela pourrait aboutir à une position qui, sur le fond, ne serait pas si éloignée de celle de Donald Trump, indique Cyril Brett. Seule la forme serait différente.
L'encouragement contre les invectives. Naïfs seraient ceux qui croiraient en Europe qu'il y a une candidate pro-européenne face à un candidat pro-américain. Les deux ont pour charge, c'est dans leur mandat, c'est dans leur serment de promouvoir et de défendre les intérêts américains, aux Européens eux-mêmes, de promouvoir leurs propres intérêts.
Alors que la nature de la relation transatlantique est en train de muter, le scrutin américain met en lumière une Europe prise en étau entre Pékin et Washington.
La campagne et le scrutin aux États-Unis à suivre sur RFI et RFI.fr où l'on prépare une nuit américaine ce mardi 5 novembre.
RFI Midi.
Lui a un temps caricaturé, Donald Trump, l'illustrateur Edel Rodriguez, d'origine cubaine, devenu citoyen américain. Edel Rodriguez raconte son histoire dans un roman graphique intitulé Worm, ça veut dire le ver ou la vermine, c'était le surnom que Fidel Castro utilisait pour décrire les Cubains qui cherchaient à fuir après la révolution de 1959. Edel Rodriguez, alors enfant, en a fait partie, Sophie Torlotin.
Edel Rodriguez n'a que 8 ans quand il quitte Cuba en 1980 avec ses parents sur un bateau de fortune. Pour son premier roman graphique, il a ravivé ses souvenirs d'enfance dans les champs de canne à sucre, mais a aussi interrogé ses parents pour nourrir son récit et comprendre pourquoi ils avaient fui précipitamment l'île avec des dizaines de milliers d'autres Cubains pendant l'exode de Marielle, après avoir été parqués dans des camps et tabassé par la foule.
Moi, j'étais bien. J'avais des copains, j'avais mon grand-père, mon enfance était très joyeuse. Je n'avais pas conscience que mes parents craignaient de perdre leurs enfants. Ils savaient que s'ils ne quittaient pas l'île, j'aurais été enrôlé dans l'armée 7 ans plus tard et j'aurais dû me battre pour une cause en laquelle ils ne croyaient pas. Ils s'en rendaient compte car ma grande sœur a 6 ans de plus que moi. Si on ne suivait pas les consignes du parti, on n'avait pas accès à l'université, par exemple. On voulait la liberté et des perspectives d'avenir. Les Cubains étaient comme les Allemands de l'Est qui voulaient passer à l'Ouest.
Ce récit fourmille de détails du quotidien. Le rationnement, le manque de médicaments ou de nourriture, la crainte aussi d'être dénoncé par des voisins. Une façon pour Edel Rodriguez de dénoncer l'aura romantique et idéalisée de la révolution cubaine.
We feel as Cubans that what
nous les Cubains, on a le sentiment que ces Français et ces Américains qui ont adoré et soutenu la révolution castriste nous ont compliqué la vie pendant 60 ans. Mais c'est notamment dû au fait que les histoires comme la mienne ne sont pas racontées. Personne ne fantasme sur la révolution iranienne ou la dictature nord-coréenne, mais Cuba, si. Sans doute parce que les Cubains aiment la vie et la musique.
Avant de raconter son parcours dans ce roman graphique, Edel Rodriguez s'est fait connaître par ses caricatures féroces et très graphiques de Donald Trump, qui ont fait la une de magazines comme Time ou Der Spiegel. Lui seul peut dresser le parallèle entre le milliardaire américain et Fidel Castro.
What I saw in Trump, he was saying the same phrases that Castro.
Trump disait les mêmes choses que Castro, que les médias sont les ennemis du peuple. Il appelait à les combattre. Il me semble que personne ne l'a remarqué et je me suis dit qu'il fallait mettre en garde les gens. Les parallèles sont évidents. Vous avez à Cuba des hommes barbus en armes, pareil aux États-Unis pendant l'attaque du Capitole. Visuellement, c'est flagrant.
It wasn't that difficult to draw the parallels.
Avec ce témoignage unique publié juste avant la présidentielle américaine, Edel Rodriguez espère éveiller les consciences pour éviter la dérive autoritaire de son pays d'adoption.
Warm, la fresque familiale d'Edel Rodriguez vient donc de paraître chez Bayard Graphique. Presque 12h30 en temps universel. Restez avec nous dans 15 secondes. Afrique Midi, on retrouve Victor Moria. À tout de suite.